Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Radio Judaïka Strasbourg pour un nouveau numéro de talk show. Notre invité est quelqu'un qui connaît bien l'actualité. Il a été le directeur de la rédaction de Radio J pendant de nombreuses années. Il est également journaliste sur cette même radio. Bonjour Michel Zerbib.
Bonjour Jean.
Merci d'être avec nous. Juste avant de parler de l'actualité, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé à Paris au niveau des radios juives?
C'est-à-dire récemment?
Oui, les changements qu'il y a eu, rapprochement des radios juives, etc.
Alors en fait, je peux pas vous en dire beaucoup plus que ce que vous ne savez pour l'instant. Oui, il y a toujours eu des tentatives de rapprochement des radios juives. Bon, vous savez que depuis quelques, à peu près 5 ans, Radio J, en l'occurrence, avait été reprise par des actionnaires.
Qualita, en l'occurrence.
Qualita, oui, le patron de Qualita, et puis un financier qui s'est retiré après, qui ont un petit peu changé, l'allure, la ligne éditoriale un peu de la radio, qui est une radio très très engagée. Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est un peu plus œcuménique, mais disons qu'elle a permis, en tous les cas, cette entrée dans la radio, de sauver justement les meubles, puisqu'il y avait des problèmes financiers importants à l'époque, et donc ça a permis de faire perdurer ce qui reste la première radio juive en France, qui était une radio évidemment d'information, qui est née en 1982, vous le savez, au moment où se faisait sentir déjà à l'époque, ça fait plus de 40 ans, le besoin d'avoir une information différente de celle qu'on entendait dans les médias mainstream, comme on dit dans le jargon. Et c'était au moment de la guerre du Liban. Aujourd'hui, c'est la même chose. On est dans une même période.
La seule différence, c'est que, en tant qu'observateur, de voir Radio J et Judaïka FM se rapprocher, c'est un peu étonnant, non, connaissant leur... leur positionnement.
Absolument. Alors, vous rappelez-vous, peut-être pour les auditeurs, il faut le savoir, c'est vrai que c'était deux radios assez différentes du point de vue idéologique, même si elles avaient comme principal, quand même, de donner de l'information, je pense, pour les deux radios, correctes, et qu'elles avaient pour souci principal de diffuser aussi ce qui est la culture juive, la vie juive dans le monde. C'est vrai que Judaïka FM était plus connu pour être, disons, plus marqué à gauche, pour simplifier les choses.
Ah ouais.
Et Radio J un peu plus à droite, on va dire,
ouais.
Sous ma houlette, j'ai dirigé pendant très longtemps la rédaction, je disais qu'on était, pour définir les choses, on était une radio, il ne fallait pas se cacher derrière son petit doigt, une radio pro-israélienne, mais jamais anti-arabe. Et je mettais toujours au défi nos auditeurs ou nos adversaires politiques, voire même nos ennemis, de prouver le contraire. Donc j'espère que Radio J reste dans cet état d'esprit, c'est-à-dire évidemment d'être une radio française, républicaine, pro-israélienne, pro-sioniste, mais qui n'a aucune animosité envers les Arabes et les musulmans. En revanche, combattant évidemment les formes les plus extrêmes du monde arabo-musulman, c'est-à-dire l'islamisme, le djihadisme et toutes ces composantes.
Alors, Michel Zerbib, on va revenir...
Aujourd'hui, c'est fait, oui.
Oui, on va revenir sur l'actualité israélienne, puisque... c'est aussi sur Radio J. On a eu les accords qui ont été signés il y a de cela un mois. On attend encore deux dépouilles d'Israéliens revenant à Gaza. Et on a beaucoup discuté avec énormément d'intervenants. Et plein de gens nous disent finalement qu'ils ne croient pas une seule seconde du désarmement du Hamas et de cet accord de paix. C'est quoi votre avis ?
Oui, j'imagine que vous avez parlé avec beaucoup de gens, sans doute encore plus, beaucoup plus savants que moi au plan de la géopolitique israélienne. Moi, ce que j'observe évidemment depuis longtemps et récemment, c'est que est entré dans le jeu de façon très importante, si je puis utiliser le terme de jeu, une puissance comme le Qatar, qui va continuer, à mon avis, à jouer un rôle très 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 important dans cet accord. Le Qatar qui va vouloir être présent, et le Qatar qui n'aura de cesse, il faut le rappeler, de vouloir maintenir en quelque sorte une expression du Hamas, le mouvement qui devrait normalement disparaître hein, dans cet accord, mais une expression du Hamas dans la bande de Gaza. Autant dire, et je crois que je peux le dire avec d'autres, que cet accord va être difficile à mettre en place dans la mesure où les États-Unis, Trump en tête, ont choisi quand même comme interlocuteur, comme médiateur, qu'ils considèrent comme valable, le régime de Doha. Et je crois que c'est là le maillon faible, le talon d'Achille de cet accord, car l'idéologie du Qatar, c'est celle des frères musulmans, et que, en effet, pour eux, l'élimination totale, l'éradication totale du Hamas serait une défaite aussi pour cette idéologie-là et pour le Qatar. Donc là, d'un point de vue, disons, pratique, oui, on espère qu'on va retrouver les corps, récupérer les corps qui puissent être restitués pour être enterrés, les corps des gens assassinés, hein, il faut bien le rappeler, hein, c'est-à-dire des Israéliens et de ce travailleur étranger en Israël, que Israël va continuer, selon cet accord, à vouloir justement faire en sorte que le Hamas soit désarmé, mais je ne pense pas que ça puisse se faire en quelques mois. Je pense que ça va durer encore assez longtemps et que ça va être extrêmement difficile pour Israël. C'est en ce sens que je pense, je fais partie un peu, je détonne un peu hein, dans le milieu journalistique. Aujourd'hui, moi j'ai dit dès le départ que les Israéliens avaient raison, que Benjamin Netanyahou avait raison de rentrer en guerre de façon aussi importante à Gaza. On a vu que c'était très difficile, plus de 2 ans, et on n'a pas réussi véritablement à éradiquer ces forces militaires, et qui sont soutenues au plan politique et financées toujours par le Qatar. Donc je pense que ça va être extrêmement difficile. Donc je suis, il faut bien le dire, moi qui suis d'un naturel optimiste en général pour l'avenir du peuple juif, mais assez pessimiste sur ce qui va se passer à Gaza proprement dit. Mais comme il y a d'autres fronts sur lesquels Israël fait des progrès, alors on peut aussi entrevoir quelques éclaircies.
Alors justement, on parle beaucoup en ce moment du Liban, on parle beaucoup d'une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, et également d'une normalisation entre la Syrie et Israël. Vous pensez que Al-Shara aurait plus intérêt, président syrien, aurait plus intérêt à aller vers cet accord que d'aller à la confrontation?
Oui, oui, absolument. D'un point de vue à court terme, à moyen terme même, on peut dire que c'est évidemment son intérêt absolu. Il n'a aucune raison pour l'instant, et c'est très intelligent ce qu'il fait, d'ailleurs, de rentrer en frontal, même s'il y a eu quand même des escarmouches importantes hein, entre l'armée israélienne et l'armée syrienne au pouvoir. Hein. Il faut pas l'oublier, hein, la semaine dernière notamment. Mais pour l'instant, disons, d'un point de vue plus géopolitique, il n'a pas intérêt à le faire. Rappelons quand même son surnom, ça c'est intéressant. Vous savez qu'il s'appelle en fait Al-Joulani, c'est-à-dire le Golani, le Golan. Donc il ne faut jamais perdre de vue l'idée que cet ancien, est-il vraiment un ancien djihadiste, un ancien daéchien, à l'idée de récupérer ce qui est son nom, c'est-à-dire le Golan syrien. Pour l'instant, ce n'est pas encore sur la feuille de match, sur la feuille politique, mais je pense qu'à moyen terme, oui, le Syrien a tout à fait intérêt dans le contexte géopolitique de rester tranquille avec Israël. Sur ce front-là, on peut dire que Israël a marqué des points importants.
Alors, on a parlé évidemment de Doha, on a parlé de la Syrie, il y a évidemment un pays qui est le plus anti-israélien, c'est l'Iran. On a vu qu'il y avait une guerre de 10 jours. On parle beaucoup de bruit de bottes en ce moment sur Israël et en Iran. Pour vous, c'est sûr, il va y avoir un affrontement bientôt? C'est inévitable?
Je ne le pense pas. Je pense que, oui, je sais que beaucoup de spécialistes de l'Iran le pensent, qu'aujourd'hui on entend des rodomontades du régime iranien qui disent vous allez voir ce que vous allez voir, et puis nous aurions pu prendre facilement le dessus sur Israël lors de cette guerre des 12 jours.
Vous y pensez ?
Je pense que, au contraire, Israël a marqué des points extrêmement importants, et c'est là où je voulais en venir. Je pense qu'on a beaucoup critiqué en France Netanyahou, y compris pour ceux qui ne sont pas nécessairement anti-israéliens, mais je pense que ce qu'a fait le gouvernement israélien, l'armée israélienne au Liban a été tout à fait extraordinaire, à mon avis. Ils ont marqué des points très forts, ils ont frappé les imaginations, ils ont réduit une grande capacité quand même nucléaire de l'Iran. Et je ne vois pas dans ce contexte aujourd'hui, avec les alliances qui sont celles normalement de l'Iran, avec la Turquie, avec la Russie, je ne vois pas l'Iran aujourd'hui essayer, si ce n'est comme un baroudonneur, essayer de reprendre le conflit avec Israël. Moi, je pense qu'au contraire, même si Israël est sur ses gardes, mais qu'on en a pour un petit moment de tranquillité sur ce front, et qu'il va se passer des choses intéressantes du point de vue politique international.
Alors, il y a aussi, on va dire, l'événement, c'est l'arrivée de Trump aux États-Unis. On a l'impression que Trump, c'est un coup à droite, un coup à gauche. À quoi il joue ?
Oui, vous avez raison. C'est assez, assez peu lisible. Hein. C'est un président, beaucoup de spécialistes le disent, qui gouverne, qui navigue à l'instinct. C'est un peu particulier, donc il fait des affaires, y compris avec le Qatar, on en parlait tout à l'heure, hein, des investissements importants avec le Qatar. On voit qu'il fait des affaires très spectaculaires aussi avec l'Arabie Saoudite, donc c'est intéressant. Il souffle le chaud et le froid avec Israël. On le voit, ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie est très particulier, ça... C'est vrai que c'est assez peu lisible. Alors, il se passe, et là, c'est ce que vous avez apporté comme élément peut-être plus intéressant, plus original dans cette conversation, c'est que son mouvement, le fameux MAGA, faire l'Amérique en plus grande encore, ce MAGA-là, hélas, ça va nous amener vers d'autres réflexions, est en train de devenir ou de redevenir particulièrement antisémite. Ouais. C'est-à-dire qu'il se trouve aujourd'hui avec sa majorité, en quelque sorte, en porte-à-faux, lui qui a développé, il faut bien le reconnaître, une politique plutôt de façon très spectaculaire, pro-israélienne, pro-juive, avec l'ambassade, bien sûr, des États-Unis à Jérusalem, etc., mais l'antisémitisme de droite ou d'extrême droite aux États-Unis revient en force aussi. Et il va être dans cette difficulté-là. Est-ce qu'il va pouvoir maintenir longtemps justement cette politique pro-israélienne ? Ça, c'est une des difficultés. C'est quelqu'un qui joue à l'instinct. Ça, c'est une des sources d'inquiétude dans la mesure où je pense qu'il, encore une fois... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui est persuadé de réaliser la paix universelle, mais qui joue quand même aussi au plan intérieur avec de grandes difficultés qui s'annoncent pour lui.
Un mot sur l'arrivée de Mamdani à New York, c'est aussi un signe pour les Juifs américains, de New York particulièrement.
Ouais, ça fait partie, on peut dire, du... Bon, il y a aussi une histoire, si on le regarde d'un point de vue de l'histoire du judaïsme américain, c'est vrai qu'il y a toujours eu une gauche américaine qui se sentait... juive américaine, hein, qui se sentait plus américaine que juive, pour laquelle la terre promise, c'est pas Israël, ce sont les États-Unis... Ajouter à cela, bien sûr, ce qui s'est passé depuis 2 ans, qui a frappé beaucoup les imaginations, y compris chez les juifs américains, notamment les jeunes juifs américains, la guerre à Gaza, a fait que certains ont peut-être oublié leur réflexe de s'interroger sur les prises de position de Mamdani, sur ses origines intellectuelles. Ça va très loin, Son père est un théoricien quand même de l'antisionisme radical. Sa mère aussi est très anti-israélienne.
Bon, lui aussi.
L'individu... Pardon ?
Lui aussi, il est anti-israélien.
Et lui est très anti-israélien. Alors, il est très séduisant. C'est vrai, il parle bien. Il sort sur cette vague où tout le monde a envie de dire « Ah, ce que fait Israël, c'est horrible à Gaza, etc., la Palestine ». Bon, même pour des... Ça devient même un peu tragicomique. Il vient de, je crois, de choisir si je... un maire adjoint qui est un trans-juif anti-sioniste. Donc c'est presque une blague. On a l'impression que c'est une fausse information. Mais c'est vrai. Donc il donne tous ces signes-là. Et il marque des points. Alors on pourrait dire aussi, on pourrait voir l'affaire d'un autre point de vue en disant, après tout, il y a quand même 70% des juifs américains, des juifs new-yorkais, pardon, qui ont voté contre lui, hein, qui n'ont pas voté pour lui, c'est vrai. Mais ça dit quelque chose aussi de l'histoire du judaïsme américain, qui en effet, c'est pas la première fois, on le voit avec les prises de position d'un certain nombre de grandes stars américaines, malheureusement, qui pensent pouvoir... se dire antisioniste sans comprendre
ce que ça veut
toute
dire.
L'histoire de ce terme, toute l'histoire aussi de ce qui s'est passé en Europe, et sans savoir qu'ils font de l'antisémitisme, peut-être sans le savoir.
Alors Michel Zabi, on sait que on dit plein de choses aujourd'hui, mais demain ou après-demain, ça peut changer, donc on va arriver à un nouveau sujet. Je voudrais qu'on revienne en France. Vous l'avez sûrement remarqué, Michel Zabib, il y a une, on va dire, une politique qui est à l'arrêt. Est-ce qu'on peut donner à nos éditeurs un espoir pour que dans quelques jours, quelques mois, la France continue à remarcher ? Là, il y a un blocage. Il y a un vrai blocage.
Oui, c'est vrai que c'est un blocage institutionnel. Bon, il y a beaucoup de problèmes en France, c'est vrai, qui sont assez... assez pesant, mais disons, pour être très concret, pour faire marcher la France, pour voter le budget, il va falloir que ça accélère. Je pense qu'au bout d'un moment, on trouvera quand même une solution. Il y a une majorité, encore, si j'ose dire, grâce à Dieu, à l'Assemblée nationale et au Sénat, une majorité vraiment démocratique, qui va finir par trouver un accord pour voter ce budget. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes.
Il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot dissolution. Est-ce que vous pensez que la dissolution aura lieu ou pas ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. En vérité, peu de gens y ont intérêt. Peu de partis, peu de mouvements y ont intérêt aujourd'hui. Et en premier lieu, la majorité actuelle, enfin, celle qui est considérée comme la majorité actuelle au pouvoir, celle du président Macron, qui n'aurait aucun intérêt, à mon avis, à dissoudre. Il perdrait encore une grande partie de ses derniers soutiens. Je pense que le Front National ne devrait pas s'y aventurer non plus, même s'il il le réclame
encore
à cri. Et quant à Mélenchon, le gourou de l'extrême-gauche anti-sioniste et son mouvement passionnément pro-palestinien et antisémite, eux aussi, je pense que là, à l'heure actuelle, si on faisait une dissolution aujourd'hui, alors là, je pense qu'ils perdraient beaucoup. Ils perdraient beaucoup de leurs troupes parce qu'il n'y aurait pas ce funeste front républicain qui avait joué pour eux. À la limite qu'il ait joué contre le Front National, pourquoi pas, mais qui a surtout joué en faveur de LFI, qui a fait rentrer en masse ses députés qui ont détruit une grande partie de ce qu'est la représentation politique française là, depuis depuis un an maintenant. Donc moi je reste persuadé, vous allez peut-être me rappeler en me disant vous êtes trompé, mais je ne pense pas qu'il y aura de dissolution avant les élections de 2027.
Alors, Michel Zabib, il y a, vous l'avez dit, plusieurs problèmes en France. Il y en a un qui nous intéresse particulièrement, c'est l'antisémitisme. On a vu cet antisémitisme, on va dire, être exponentiel. Première question que j'ai envie de poser sur ce sujet-là, c'est est-ce que finalement, la France est-elle antisémite? Est-ce que aujourd'hui...
La question, vous avez raison de la poser comme ça, Jean, de façon très directe. Et moi, je vais répondre non. Je pense que la France, en très très grande majorité, n'est pas antisémite. Comme la France, en très très grande majorité, n'est pas d'extrême gauche pro-palestinienne et anti-sioniste. Non, sauf que, en effet, on peut avoir ce sentiment vertigineux en regardant ce qui se passe, les actes antisémites se multipliant, une presse parfois écrite et audiovisuelle assez faible pour comprendre les phénomènes. Non, la France n'est pas antisémite. D'accord. Il y a beaucoup d'antisémitisme en France. Je pourrais prendre un exemple que vous connaissez, j'imagine que vous avez commenté ces dernières semaines, cette fameuse liste d'un professeur
à Lille.
De Lyon.
Lyon.
Spécialiste de l'histoire médiévale du Moyen-Âge, qui est en plus spécialiste de... Ça ne s'invente pas, là aussi. On a l'impression que l'histoire, que l'actualité, ce sont parfois des grandes blagues, tragicomiques. Spécialiste de l'Inquisition, et qui dresse une liste de juifs à absolument boycotter, qui sont des génocidaires. Car voyez-vous, aujourd'hui, en France, pour certains... Une personne d'origine juive qui ne demande pas la fin d'Israël devient tout simplement un génocidaire. C'est ce qui arrive à des gens très bien. Donc moi, je me fais souvent attaquer en tant que génocidaire. Je ne savais pas que j'étais un génocidaire sioniste, etc. Or, bon, cet homme fait cette liste, à juste titre, levée de bouclier. Et puis là, je vous donne une petite information qui va un peu faire grincer quelques dents, y compris de celle de Strasbourg, sur les réseaux sociaux. Pour une fois, à juste titre, depuis longtemps, le président de SOS Racisme s'insurge contre cette position en disant « c'est scandaleux, comment on peut faire des listes, même si on est rajoutil, hein, évidemment ». Même si on est contre Netanyahou et sa politique méchante, etc., comment peut-on faire des listes de juifs? C'est scandaleux. Et sur ce, arrive un historien bien connu de ceux qui s'intéressent à l'histoire, notamment de la Seconde Guerre mondiale, de Vichy, de l'antisémitisme, qui, à mon avis, travaille aussi beaucoup avec le mémorial de la Shoah, qui s'appelle Laurent Joly.
Oui, on l'a reçu.
Et Laurent Joly intervient dans le fil de SOS Racisme et de Dominique Sopon, en disant « d'habitude, je suis avec vous, mais là, non, je vous le dis, le professeur Terry, c'est son nom, Julien Terry, est un type très bien, je résume, hein, il n'est pas antisémite, je comprends pas comment on peut faire ça, c'est malsain, ça c'est l'extrême droite qui est en train de lancer toutes ces choses-là. » Donc moi, j'interviens sur ce fil en disant « mais je crois rêver, vous êtes... » C'est vraiment Laurent Joly, l'historien de Vichy, qui ne comprend pas ça, qui n'a pas la sensibilité de ce qu'est une démarche antisémite de cette sorte-là. Il se sent un peu gêné, donc j'en fais du bruit. Finalement, il choisit très courageusement, l'historien Laurent Joly, de se retirer de cette conversation en levant ses posts sur Facebook. Dominique Sopo, très gêné, le président de SOS Racisme, dit « Ah, Michel, vous n'auriez pas dû faire ça, c'est juste un débat, etc. » Et je deviens celui qui, parce qu'il a dénoncé cette prise de position étrange et assez stupéfiante de Julien Thierry, devient un peu l'excité de service, si vous voulez. Voilà où on est aujourd'hui, et je dis, c'est là où il ne faut rien lâcher. Un historien de Vichy ne peut pas devenir l'avocat d'un antisémite, fut-il professeur éminent de l'université française à Lyon. Un président de SOS Racisme ne doit pas jauger les choses à l'aune de combats contre l'extrême droite. Non, il y a des antisémites, qu'ils soient à l'extrême droite ou l'extrême gauche, il faut les combattre durement. Je vous raconte cette anecdote parce qu'elle est symptomatique, à mon avis, de ce qui se passe en France, c'est-à-dire de la faiblesse. On ne combat que selon des prismes politiques. Or, il faut dénoncer, ça a toujours été, en tous les cas, je dirais d'un point de vue professionnel à Radio J, mais d'un point de vue personnel, il faut savoir discerner les choses, combattre l'antisémitisme. Aujourd'hui, je me
comment on combat l'antisémitisme
comme un journaliste de combat. Et les choses sont sérieuses aujourd'hui. Il faut les combattre. Et je m'étonne encore une fois, et j'espère que certains l'entendront, qu'un historien comme Laurent Joly, qui travaille avec le mémorial de la Shoah, ait pu se faire l'avocat d'un antisémite.
Comment on combat l'antisémitisme aujourd'hui ? Il y a des recettes, entre guillemets ?
Ah, c'est toujours, si vous voulez, le... Des fois, on a l'impression, c'est un peu une expression que j'utilisais, on a l'impression des fois de vouloir vider la mer avec un dé à coudre.
Ouais.
Puis en même temps, il ne faut pas renoncer. C'est un peu le mythe de Sisyphe, je ne sais pas. Il faut se battre, il faut essayer, il faut en appeler à l'intelligence, il faut croire encore à l'intelligence des gens, leur apprendre, débattre. Moi, j'avoue que j'essaie de le faire sur les réseaux sociaux, c'est d'une violence assez inouïe aussi. On a l'impression que c'est très difficile de revenir sur des strates d'informations, de fausses informations, de fake. Alors, rajouter à cela, j'ai remarqué ça hier, je suis tombé sur un... Bah, d'ailleurs, ça concerne Strasbourg.
Oui.
Je suis tombé sur un deep fake, comme on dit aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, où on voyait Marion Maréchal Le Pen qui était postée devant la
mosquée
de Strasbourg en construction en disant « Regardez comme elle est magnifique, cette mosquée. » Et donc, elle est financée par Miligorus, qui a, je sais pas, les Turcs, qui a je ne sais plus combien de mosquées qui sont financées. C'est formidable. Alors, vous aussi, donnez de l'argent. venez financer cette mosquée qui sera la plus grande mosquée d'Europe. Et donc là, à mon avis, là, ce que je vous raconte, je l'ai vu sur tout simplement sur Facebook, je crois. Je me suis dit, ça va être de plus en plus compliqué de combattre l'antisémitisme, mais pourquoi pas ? Alors, ça passera pas. Ça passera pas par l'idée un peu étonnante du président de la République de mettre des labels d'information. C'est sans doute un autre débat, mais qui est lié. Mais je pense qu'on peut encore croire. On ne peut pas désespérer totalement de l'humanité. On peut croire que l'intelligence, la connaissance, l'éducation, ça va passer. Ça doit passer obligatoirement par l'école. C'est impossible aujourd'hui qu'on empêche les professeurs d'enseigner l'histoire, d'enseigner l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah, du sionisme, etc. Enfin, aujourd'hui, on a tellement de bêtises qui s'est répandue qu'on pense que le sionisme, c'est l'autre nom du fascisme. Les gens sont persuadés. Hein, si vous entendez un certain nombre de personnes de bonne foi qui pensent que lorsqu'on leur dit « mais je suis sioniste »,« ah bon, mais vous êtes sioniste, mais c'est grave !» Parce qu'ils ne connaissent pas. Il y a un déficit énorme de connaissances. Donc je pense qu'il va falloir continuer à se battre. C'est un combat lent, difficile, un peu... qui est pas fait, c'est vrai qu'il n'est pas du tout aisé en ce moment dans cette atmosphère générale, mais il va falloir continuer à le faire par nos moyens, par vos moyens. Vous, à Radio Judaïque Strasbourg, vous faites ce travail d'information. Vous savez que vous êtes écouté sans doute par des gens qui ne sont pas juifs. D'ailleurs, les juifs aussi doivent être aussi informés. que beaucoup sont aujourd'hui sont un petit peu embêtés devant cette situation, devant cette avalanche, et ils n'ont pas les arguments, etc. Mais alors de façon plus générale, si je faisais de façon plus... Il y aura toujours l'antisémitisme, ça c'est sûr. Mais il faut vivre avec et il faut quand même se battre. Comme on dit, il faut toujours combattre.
Voilà.
Le combat, comme on disait, c'est une des formules de Radio J pendant longtemps. Qui était feu l'ancien président de la radio Hagenberg, qui disait toujours, on finissait toujours nos conversations avec le combat continue.
C'est le mot de la fin de cette émission. Merci Monsieur Zerbib, peut-être à très bientôt, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie.
Merci, au revoir.
À bientôt, Jean.